Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat jusqu'à 19h entre Céline Hervieux, bonsoir, conseillère PS de Paris, porte-parole et secrétaire nationale du Parti Socialiste. Bonsoir à Patrick Caram.
Bonsoir.
Vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France. Et alors que vous entrez dans ce studio, nous observons Novak Djokovic embrasser cette coupe de son 7e Wimbledon, 21e titre du Grand Chelem. Il a battu en finale il y a quelques minutes l'Australien Nick Kyrgios, qui est en train de jouer avec son assiette en argent, avec son plat en argent. C'est quand même du délire total, ce Nick Kyrgios qui s'est énervé tout à l'heure sur le court. Et on se faisait quand même la réflexion, Céline Hervieux, il serre la main à tout le monde, Djokovic, mais il n'est pas vacciné.
Il n'est pas vacciné.
Non, est-ce que c'est grave, docteur?
Bah écoutez, moi je trouve ça dommage, parce que c'est vrai que ces sportifs ont une aura, qui sont respectés, ils influencent aussi les jeunes générations. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment regretté son positionnement par rapport à la question de la vaccination. Donc visiblement, ça ne lui a pas porté préjudice et il a toujours les talents qu'on lui connaît et qu'on lui attribue. Mais je trouve
ça dommage.
Et surtout,
on ne lui demande plus du tout de se vacciner.
Aujourd'hui, on ne lui demande pas de se vacciner, mais voilà, c'est une image aussi qui renvoie. C'est sa réputation, pour moi, qui a été altérée par ses prises de position sur cette question de la vaccination, qui est extrêmement importante. Et pour les jeunes générations, je trouve que ce n'est pas un bon exemple. Et par ailleurs, je reconnais ses qualités de grand sportif et de grand tennisman.
Patrick Caram.
Ouais, moi, j'ai toujours une vision un peu respectueuse de ce que pensent les autres. Et pour lui, c'est vrai qu'il y avait eu... En Australie, parce que les Australiens ne plaisantent pas, ils sont quand même assez sévères,
et
assez
violents.
Et puis
son adversaire est australien.
Et voilà, donc en Australie, il y avait eu cette impasse que l'on connaît. Bon, que vous soyez vacciné ou pas, vous pouvez avoir le Covid aujourd'hui,
oui.
Même 2 semaines ou 3 semaines après avoir été vacciné, il faut
ça
l'avoir en tête. Et vous pouvez également, non, je ne l'ai jamais eu.
Non,
jamais. J'ai fait un test samedi parce que j'ai une petite rhinite et je n'ai toujours pas la Covid et je continue à toucher du bois.
Ça, c'est le remarrangé, ça arrange beaucoup de choses.
Oui, voilà, ça aide énormément.
Ça marche bien.
Ah, mais ça marche très bien. Ma culture antillaise me protège. Allez pas croire ça et allez pas dire que je suis alcoolique. Par contre, Djokovic, je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup. D'abord parce qu'il a, un fond... il est croyant, il est profondément croyant, avec ce besoin de faire du bien autour de lui. Et il aide énormément les plus fragiles, les plus défavorisés, énormément en Serbie.
Vous ne faites pas du bien autour de vous quand vous incitez à ne pas se vacciner, quand on sait que la vaccination protège quand même les plus vulnérables, et notamment dans notre pays, mais partout dans le monde, contre le virus du Covid. Donc je trouve que ce n'est pas un bon exemple. Et vous ne pouvez pas dire qu'il fait le bien autour de lui, justement, cet instinct de miséricorde, de protection des autres. Ça passe,
Céline,
aussi
ne parlons
par
pas de la même...
l'envoi de bons messages. Il aurait pu dire, moi, je ne me fais pas vacciner. C'est purement personnel.
Vous êtes dans la punchline.
Mais j'incite à la vaccination.
Juste... Non, je donne mon avis. Écoutez simplement ma position. Moi, je respecte les positions des uns et des autres. Je suis Guadeloupéen. Je ne me voyais pas aller dire aux 80% des Guadeloupéens à l'époque où ils n'étaient pas vaccinés, aller leur faire la morale et la leçon. Je ne me voyais pas aller dire aux personnels soignants qui ont été virés malproprement, qui se sont retrouvés au chômage. Ça crée des drames familiaux.
Qui sont pas réglés.
Et qui ne sont pas réglés. Et non seulement des drames familiaux, mais une situation d'instabilité totale en Guadeloupe, mais c'était la même chose en Martinique ou en Guyane. Je ne me voyais pas leur donner des leçons. Donc vous voyez, je ne me vois pas.
Mais
je
inciter
suis
les gens
plus...
à se faire vacciner, c'est un devoir en tant que responsable politique,
mais
on connaît la
sûr.
Réalité des études scientifiques sur le sujet.
Je dis ce que je fais. Je
donc effectivement, peut-être
tous,
qu'électoralement, ça n'est pas gagnable sur les territoires d'outre-mer, mais il faut assumer au bout
d'un moment
ses positions.
Je ne suis pas candidat en outre-mer, donc ne parlez pas d'électoralisme. Par contre, moi je respecte, voyez, en tant que Guadeloupéen, j'ai toujours pris l'habitude d'écouter les autres et d'entendre leurs arguments. Moi, je ne les démonte pas quand ils ne sont pas d'accord avec moi. Je considère que les arguments, on peut les entendre, on peut être totalement en désaccord, mais il faut les entendre. C'est ça le respect du dialogue et de la démocratie.
On peut absolument respecter cette position en incitant par la pédagogie et l'explication rationnelle et scientifique de l'avantage de la vaccination pour protéger notamment les plus vulnérables. Donc, il ne s'agit pas de manquer de respect à une opinion, il s'agit de dire, en tant que responsable politique, j'incite les gens à se faire vacciner. Peut-être que personnellement, je fais un choix différent, comme ça a été le cas de ce sportif. Mais d'inciter les gens globalement à se vacciner, oui, je pense que c'est la responsabilité que nous avons en tant que responsable politique. C'est le minimum que la population peut attendre de nous et d'expliquer.
Surtout
et moi, j'ai toujours été un petit peu.
Non, mais arrêtez.
Est-ce qu'elle me donne des leçons?
Pardon, mais sur ça, moi, je l'ai dit plusieurs fois.
Vous ne sentez pas un peu visé, Patrick Aram? Je suis pas sûr.
Sur votre plateau, plusieurs fois. Oui. Je me suis vacciné. J'ai demandé à ma famille
sur
de se vacciner.
Sur mon plateau, vous êtes fait vacciner ?
Non, je vous ai dit que... Je l'ai raconté plusieurs fois.
D'accord.
Dans ma propre famille, vous avez des gens qui ne veulent pas, ma famille la plus proche, qui ne veulent pas se faire vacciner. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, vous êtes des salauds, arrêtez de
mais
leur parler,
ça,
les stigmatiser,
vous caricaturez mes propos,
arrêtez
là.
De fractionner la société française et dites-moi qu'est-ce que vous entendez faire.
C'est une infime minorité qui refuse de se faire vacciner quand même.
Dites-moi ce que vous entendez faire. Madame, juste une seconde, je vais vous appeler madame parce que franchement vous commencez à attaquer fort, mais dites-moi ce que vous entendez faire avec ces femmes et ces hommes à qui ont perdu tout, leur travail, tout simplement parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
Alors,
on préfère mettre des gens qui ont la Covid et qu'on fait intervenir dans les milieux hospitaliers plutôt que ceux qui n'ont pas la Covid, qui sont protégés et qui peuvent faire des tests et qui sont aujourd'hui au chômage.
Question de Patrick Aram, réponse de Céline Hervieux et arrêtez de retirer parce qu'elle ne pourra jamais vous répondre.
Alors si vous voulez, moi j'ai toujours été assez étonnée par la philosophie de soignants qui considèrent qu'ils se refusent, ils ont une forme de défiance d'entrée vis-à-vis du système de la vaccination et de notre système de santé. Je trouve ça assez problématique. Quand vous êtes soignant, il y a un certain nombre de vaccins auxquels vous êtes soumis quand vous travaillez dans le milieu hospitalier. Donc, qu'est-ce qui ferait que vous puissiez pas, vous aussi, accéder à une vaccination pour vous protéger,
je l'ai dit aussi.
Vous, dans un
J'étais
premier temps,
parmi les premiers
et protéger
à dire qu'il faut soigner. Il faut
que
vacciner.
Vous êtes censé soigner et accompagner. Bon, donc déjà d'entrée, moi j'ai quand même une complexité
les premiers
par rapport
à dire
à ça,
que
c'est leur
les
choix.
Soignants ont devoir de se faire vacciner.
Temps,
mais là aujourd'hui, nous avons passé ça. Donc la question aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec eux ? Est-ce qu'on continue à les laisser sur le bord de la route alors que l'hôpital public est en train d'être submergé aujourd'hui ?
Moi je ne suis pas pour les réintégrer, je suis pour les accompagner en faisant de la pédagogie pour les inciter.
Est-ce qu'on les remet dans le système hospitalier ou pas ? C'est toute la question.
Non, moi je pense qu'ils doivent se faire vacciner s'ils souhaitent.
Écoutez,
ce sont eux qui font ce choix personnel pour eux-mêmes, mais à ce moment-là, effectivement, ils peuvent changer de secteur.
Excusez-moi, mais quand vous êtes vacciné, ça ne vous empêche pas de transmettre
Oui, mais vous évitez les
COVID.
Formes graves,
quand
monsieur Caram, vous le savez
vous
pertinemment,
quand
vous êtes soignant, c'est votre responsabilité.
Quand vous êtes soignant, ça ne vous empêche pas de transmettre la Covid. Et surtout lorsqu'on a pris des soignants qui étaient testés positifs et qu'on envoyait au front. Donc on arrête un peu ce double discours.
Oui.
Soyez gentils d'être un peu réaliste et un peu pragmatique sur ces questions-là.
Quand on est pragmatique et réaliste, on se fait vacciner, justement.
Est-ce qu'elle peut en placer une, pardon, mais...
Voilà, oui, merci beaucoup, merci. Ce que je voulais dire, c'est que là, on a du recul en plus sur la vaccination. Si vous voulez, au début, moi, je peux comprendre les réticences. Voilà, on n'est pas sûr, c'est un vaccin qui s'est développé extrêmement rapidement. Voilà, il peut y avoir des réticences qui peuvent s'expliquer. Aujourd'hui, on a du recul, on a plusieurs mois de recul sur ce vaccin et on voit bien les effets positifs qui permettent justement de réduire les formes graves. Donc, les soignants, ils sont censés être à l'écoute d'un discours rationnel, scientifique et de faire confiance à la médecine et au système de vaccination puisqu'ils peuvent être vaccinés contre d'autres maladies. Donc, pourquoi faire une complexité de cette vaccination contre le Covid alors qu'on voit les résultats positifs ? Donc,
alors,
moi, je pense qu'on ne peut pas les réintégrer en l'état.
Autre forme de piqûre demain, ça va piquer. En tout cas, ça va chauffer à l'Assemblée nationale. Arrive la motion de censure conduite par la NUP ou la NUPES, comme vous voudrez, qui n'a pas de chance d'aboutir, on l'a dit dans le journal tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de ralliement DLR ou DRN. Cette motion de censure, elle est... conduite pour le symbole, c'est ce que semble nous dire la NUP. Est-ce que c'est important de la conduire ?
Oui, c'est important parce que c'est une légitimité de notre intergroupe. On a voulu manifester le fait que nous sommes la première force d'opposition, ce groupe de la Nouvelle Union Populaire Sociale et Écologique à Emmanuel Macron. Donc oui, c'est légitime parce que la première marque de défiance, si vous voulez, c'est le résultat des élections législatives du 19 juin dernier qui montre qu'une majorité des Français qui se sont exprimés sont pour... une forme d'influence d'autres forces politiques sur la politique qui est menée. Et nos députés n'ont pas été élus pour donner la majorité à un gouvernement, la même majorité que les Français lui ont refusé. Donc oui, c'est parfaitement légitime. Vous savez que la dernière fois qu'un Premier ministre ne s'est pas soumis au vote de confiance, ça date d'il y a 30 ans. C'était en 92. Ça fait 30 ans que ça n'est pas arrivé. Donc oui, nous posons d'entrée un postulat qui est de dire « nous sommes la première force d'opposition ». Et nous attendons du gouvernement qui prenne en compte cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale et que cela influence son discours de politique générale, on voit bien que le compromis ne fait pas partie de l'arsenal politique de la nouvelle Première ministre.
Patrick Caram.
Oui. Si vous voulez, quand le spectacle que donne aujourd'hui l'Assemblée nationale est vraiment pour les Français de piètre augure. Vous voyez, il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui. Quand vous passez votre temps à gueuler, à taper du poing sur la table et parfois même à avoir des insultes, vos collègues journalistes les ont référés. Et que le Parti socialiste, qui est un grand parti que je souhaite, moi, un jour voir renaître et prendre le là sur toute cette mouvance de gauche. Le Parti écologiste aussi, tous ces deux partis sont entre les mains de LFI qui les entraînent vers du n'importe quoi, c'est quand même un sujet. Deuxièmement, ils considèrent que la Première ministre n'a pas de légitimité. Pas de légitimité, pardon, mais vous avez quand même une élection, elle est nommée par le président de la République. Partant de ce débat-là, votre volonté, c'est faire quoi ? C'est de faire tomber le gouvernement, qu'il y ait de nouvelles élections, entrer dans un cycle d'instabilité. Et c'est pour ça que les Français vous ont élus ? Non, ils vous ont élus pour régler leurs problèmes quotidiens. Et le problème du pouvoir d'achat, de l'insécurité, le problème de l'immigration, les problèmes qui sont liés à la faillite des secteurs publics, l'hôpital, l'école, etc. C'est pour ça qu'ils sont élus. Et pas pour aller brailler à l'Assemblée nationale et vous montrer. Et j'ajoute un dernier point, si vous permettez, qui pour moi est très inquiétant. C'est qu'en faisant ça, ils sont en train de crédibiliser un peu plus le Rassemblement national. Les excès de Zemmour, le racisme et parfois qu'on entendait dans certains discours, eh bien, ça avait crédibilisé totalement le Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est la NUPES qui donne une sorte d'imprimatur au Rassemblement national et qui en fait un parti qui risque d'être de gouvernement. Et moi, je suis vraiment atterré.
Céline Hervieux, avant de parler de ça, qu'est-ce que vous répondez à Patrick Caram lorsqu'il dit que tous les partis agglomérés à la NUP sont embrigadés par la France Insoumise qui porte cette motion de censure.
C'est absolument faux. Nous sommes des groupes parlementaires indépendants. Donc le Parti Socialiste a une discussion de groupes parlementaires entre socialistes pour décider de la position. Il se trouve que la position a été de suivre la motion et de voter effectivement cette motion qu'on a appelée de défiance plus que de censure. Et je suis totalement en contradiction
c'est une motion de censure.
Avec ce que vous êtes. Oui, effectivement, mais c'est pour poser aussi un acte symbolique et respecter la démocratie, dire que nous ne sommes pas d'accord parce que les députés qui ont été élus, ils le sont justement pour se battre pour le pouvoir d'achat, contre les inégalités, contre l'injuste répartition des richesses qui est faite dans notre pays, pour préserver, sauvegarder notre système de fonction publique, nos services publics. C'est pour ça que nos députés ont été élus. Donc justement, on se battra pour ça. Et ce n'est pas en votant favorablement les textes qui sont proposés par la Macronie qui ne vont pas dans le bon sens. Donc nous continuerons à affirmer cette position et nous nous positionnerons en fonction des textes, notamment sur cette question du pouvoir d'achat. Nous avons avancé un certain nombre de propositions. Quand vous arrivez, vous êtes première ministre, vous êtes une femme, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable d'infléchir aussi sa position dans son discours de politique générale en disant j'ai entendu.
Est-ce que vous l'avez vu le texte sur le pouvoir d'achat?
Il n'est pas encore arrivé, mais il a commencé à fuiter. On a eu quelques éléments. On sait très bien que ce sont des mesures purement conjoncturelles. Il n'y a pas d'augmentation du SMIC. Il n'y a pas de revalorisation. La revalorisation des fonctionnaires, c'est peanuts. Pour l'instant, excusez-moi, les gens attendent des mesures structurelles importantes sur la valorisation, sur la valorisation des salaires, une discussion concrète sur l'utilité sociale des métiers pour faire en sorte que justement les gens puissent vivre dignement de leur travail. Donc c'est pour ça qu'on se battra. Et là où je suis complètement en désaccord avec ce que vous avez dit, nous on n'a pas voté pour faire en sorte qu'il y ait deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui soient du Rassemblement national. La majorité a voté, les députés En Marche ont voté pour permettre à des députés du Rassemblement national de devenir le vice-président de l'Assemblée. Si ça, ce n'est pas une compromission, la compromission ultime est valider le discours de l'extrême droite dans ce pays. Excusez-moi, moi, je n'ai rien compris à la vie parlementaire. Donc, n'accusez pas la NUP de faire ce jeu-là, parce que nous, on sait très bien qui sont nos adversaires politiques. On est très clair là-dessus.
Patrick,
et on continuera à se battre dans ce sens.
Ça, nous sommes tous d'accord, effectivement. Les députés du Rassemblement national vice-président ont été élus parce que les macronistes ont voté pour. Comme l'insoumis qui a été désigné comme président de la commission des finances, qui est structurant pour
Éric
notre
Coquerel.
Pays, Coquerel, il l'a été évidemment parce que le groupe majoritaire a décidé de ne pas voter. Il aurait pu faire autrement. Voilà. Alors, évidemment, vous avez cette espèce de tangage, un coup à droite, un coup à gauche. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons tous noté que Mélenchon, cette semaine, les a menacés. Il a menacé ses alliés en disant « Attention, personne ne sort du bateau, sinon vous allez le payer très cher. » Il les a menacés en les intimant l'ordre de rentrer dans le rang et qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse. Bon, le quinquennat va être long. Mmh. Je ne suis certain qu'à un moment donné, on tournera la page Mélenchon-LFI. Et je le souhaite vraiment, vraiment pour notre pays. Parce que ce n'est pas en braillant, en criant, en faisant du cinéma dans l'hémicycle qu'on règle et qu'on parle du programme
d'achat. Quelles sont les propositions de votre
vous
groupe ?
Vous n'êtes pas une force de proposition aujourd'hui. Vous êtes une force...
Quelles sont les propositions de votre groupe politique parlementaire, les Républicains, sur le pouvoir
vous
d'achat ?
Vous n'êtes pas une force de proposition. Vous êtes simplement aujourd'hui dans une posture, eh bien, malheureusement, d'opposition totale en criant, en faisant du bruit et de la fureur. Ça n'a jamais fait une politique.
Absolument pas. Vous verrez qu'on aura des positions qui peuvent être
j'attends de voir, mais on le voit pas pour l'instant.
Et constructives du Parti Socialiste, en tout cas. Moi, je parle au nom du Parti Socialiste. Donc, on se battra effectivement pour la revalorisation du SMIC, notamment, pour arrêter la baisse jusqu'à 1500 euros net, c'est ce qu'on a demandé. Donc voilà, ça nous semble pas, si vous voulez, dans un contexte d'inflation, je pense qu'on n'a pas mesuré.
Vous êtes d'accord avec LFI, là, pour le coup.
Ah, mais oui, là-dessus, ça fait partie du programme.
Par exemple, sur cette proposition-là.
Sur cette proposition, on est tout à fait en accord.
Ça a tangué. L'ensemble de la NUP. Ce n'était pas tout à fait le cas.
Il y avait des autres
propositions sur lesquelles vous n'étiez pas du tout d'accord. Maintenant, Mélenchon a réussi un coup formidable.
Comme quoi, ils sont pas
c'est
d'accord.
C'est ralliez-vous à mon panache blanc. Le coup de la retraite.
Quittez la poésie de
seconde rattrape. Le coup de la retraite. Écoutez, à 60 ans, vous croyez que les socialistes qui ont fait passer la retraite à l'époque d'Hollande, qui ont fait augmenter les taux d'annuité, étaient d'accord pour cette retraite, revenir à 60 ans? Bon, on voit bien qu'ils sont obligés aujourd'hui de passer sous les fourches caudines de Mélenchon, et on verra ce que ça va donner. Je dis simplement aujourd'hui que tous les parlementaires ont une responsabilité, c'est de faire avancer la France, tous, tant qu'ils sont. Et il faut le faire avancer sur des bons rails. Et ça n'est pas en ayant... comme le fait LFI. Mais vous voyez, quand vous regardez l'Assemblée nationale, les turbulents, ceux qui crient, ceux qui chahutent, ceux
on
qui...
On n'a pas encore beaucoup vu. On a vu juste
LFI.
Une session inaugurale.
Ça n'est qu'LFI. Et je constate que les socialistes et les verts se conduisent correctement. Je constate aussi que Marine Le Pen en fait une marque de fabrique en disant « Nous sommes en costard-cravate, on respecte les lieux de pouvoir, on respecte la France et la démocratie, nous nous comportons bien. Arrêtez de servir de marchepied à Marine Le Pen, parce qu'elle finira par vous dire merci si elle arrive un jour au pouvoir. »
En attendant, textes sur la sécurité et l'immigration, moi j'attends de voir qui va être dans quel camp, hein, et je pense que votre groupe parlementaire sera plus proche des idées du Rassemblement National et éventuellement de la Macronie avec Gérald Darmanin sur cette nouvelle proposition qui est sortie sur l'exclusion et l'expulsion des délinquants étrangers. Alors, là, je pense que vous vous retrouverez sur ces questions-là. Et vous ne nous trouverez pas à vos côtés, puisque nous défendons un modèle qui est bien différent.
Vous aviez tout un courant à gauche qui était un courant qui tenait compte d'une réalité du pays. Le pays est en train de flamber. La délinquance, la violence, les viols, les meurtres, c'est en train de flamber. Et donc la première des libertés, c'est la sécurité qu'on doit aux citoyens. Si on ne donne pas aux citoyens la sécurité, c'est pas ceux qui habitent les quartiers bobos qui souffrent aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont confrontés à cette vague de violence et qui sont dans des quartiers défavorisés. C'est ceux-là, même si aujourd'hui, cette violence commence à rattraper d'autres quartiers. Eh bien, madame, en jouant ce que vous êtes en train de me sortir, là, la petite musique que je viens de déceler, vous ne l'avez pas dit clairement, mais cette petite musique qui consiste à laisser croire que lorsqu'on veut de la sécurité, ce n'est pas bien. Eh bien, moi, je vous le dis, allez parler de ça aux Français.
Est-ce que vous dites
ils veulent de la
pas dit
sécurité
ça.
Et il faut vraiment arrêter de ce tangélisme qui conduit la France dans un mur.
J'ai absolument pas dit ça. Vous avez raison, ceux qui pâtissent en premier lieu des problèmes d'insécurité, ce sont effectivement les classes populaires. Donc moi, je suis d'accord, mais pour tenir un discours qui soit plus complexe que celui de Gérald Darmanin sur la question de l'expulsion, c'est réfléchir sur les questions de réinsertion, sur les aides sociales, sur la façon dont on accompagne aussi les quartiers populaires.
À chaque fois qu'elle vous répond, vous lui parlez dessus.
Écoutez, c'est ça quand on est une jeune femme en politique.
Il
faut crier pour se faire entendre.
Pas de victimisation,
par pitié. On était sur le pouvoir d'achat.
Vous m'avez coupé la parole plusieurs fois, je vous ai rien dit.
du Parti Socialiste avec la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale sont très claires sur la garantie autonomie. On a proposé par exemple pour les jeunes qu'il puisse y avoir une revalorisation, qu'ils puissent accéder à un minimum jeunesse. La revalorisation aussi des retraites, des petits retraités notamment, qui puissent vivre aussi dignement parce qu'ils ont travaillé, ils ont une longue carrière derrière eux. On se bat pour rétablir les critères de pénibilité. Cette question du pouvoir d'achat, elle est majeure. Sur la question de la sécurité, on est très engagé aussi pour donner les moyens à nos forces de police et éviter de stigmatiser toujours les mêmes populations. Essayez de réfléchir aux causes de la violence dans notre société. Et c'est ça que vous excluez, vous êtes dans un discours simpliste. Je vous cite pas vous personnellement, mais je veux dire, le discours de la droite et de l'extrême droite sur ces questions de sécurité, il est toujours extrêmement réducteur et il cible des populations en particulier au lieu de s'attaquer à la racine des problèmes, qui sont la question des inégalités sociales aussi, et de l'accès à l'éducation, de l'accès au logement, de l'accès à des parcours professionnels variés qui leur permettent de s'épanouir, qui nous permettent à tous de s'épanouir en tant que citoyens et de respecter les règles. C'est aussi d'avoir un cadre et finalement des services publics, un État qui nous protège et la promesse républicaine qui soit la même dans tous les territoires. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est ça la réponse de la gauche.
Réponse de Patrick Caram.
Oui, ben, on va parler d'abord de la sécurité. Très franchement, vous êtes en train de nous ressortir l'excuse permanente des conditions sociales qui entraînent les jeunes, c'est pas leur faute, excusez-les, c'est pas de leur faute, à être violents, à être des violeurs, parfois pour certains d'entre eux. Et surtout, lorsqu'on le dénonce, c'est de dire vous stigmatisez une catégorie de population. Mais madame, c'est vous qui les stigmatisez. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Moi, je suis d'origine immigrée. Je suis guadeloupéen, 100% guadeloupéen, mais je suis d'origine arabe. Lorsque vous dites ça, vous me stigmatisez. Vous me mettez avec tous les autres, toutes ces voyous, ces racailles qui, aujourd'hui, terrorisent tout le monde, y compris ceux dans leur quartier qui sont d'origine étrangère. Vous êtes en train de dire qu'on stigmatise une catégorie de population, mais c'est vous qui le faites en tenant ce discours angélique. Deuxième élément, c'est pas parce que vous avez vécu dans des conditions sociales difficiles, et encore, il faut voir, parce que vu ce que la France... Vous savez, la France, c'est 1% de la population du monde, c'est 25% des aides sociales distribuées, si on prend en compte l'ensemble des pays du monde. Ça veut dire que dans notre pays, l'amortisseur social, l'aide sociale, ça marche. Eh bien, moi, je veux vous dire, arrêtez cette vision un peu angélique et un peu bêta, parce que ça ne marche pas.
Arrêtez les aides sociales.
Non, je le dis simplement, c'est de dire que parce que on a des violences et des viols et ceci, c'est les pauvres, ils sont pour rien, ils sont victimes de leurs conditions sociales. Et je vais vous poser une question. La semaine dernière, souvenez-vous, tout le monde a parlé, puisqu'on va parler de sécurité, a parlé de ce chauffeur de taxi. Ce chauffeur de taxi qui avait en 2013 violé une mineure, qui a été condamné à de la prison, mais n'en a pas fait, à peine aménagé, et qui dans la foulée a continué à violer. Plus d'une dizaine de femmes n'ont pas déposé plainte, deux ont déposé plainte. Il est condamné, il se sert de sa voiture, son taxi comme appât, il est condamné à 6 ans de prison, dont deux fermes.
Donc 4 avec sursis.
Et on aménage sa peine. Ça veut dire qu'il ne fait pas un jour de prison. Est-ce que vous avez entendu la détresse de cette femme ces jeunes femmes qui ont osé défier... Vous savez, aller déposer plainte, quand on est victime de viol, il faut le faire. 17% des femmes osent déposer plainte, vous voyez. Et seul 1,2% des femmes violées obtiennent gain de cause. Aller le faire, c'est déjà une performance. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous dites qu'il faut rien voir, il faut tourner les
absolument
yeux et que
pas
tout va bien dans notre pays.
Je vous rejoins, je sais que la justice est en grande difficulté, qu'il faut lui donner les moyens de l'application des peines et du suivi, effectivement, surtout dans les cas d'agression et de viol,
non,
comme vous l'avez dit.
Le suivi, donc, il avait un suivi. Mais c'était pas le suivi, le problème.
Ne m'accusez pas de tenir ce discours-là, parce que vous me trouverez toujours du côté de ceux qui défendent justement les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Donc n'essayez pas de jouer à ce jeu-là avec moi. Je suis parfaitement consciente de la difficulté pour les femmes de porter plainte en cas d'agression sexuelle et de viol, et du très faible nombre de plaintes qui aboutissent à une condamnation réelle. Donc là, sur ce sujet, je vous rejoins absolument.
Alors, un autre
donnons
sujet
les moyens à la justice de la réalisation des peines. Et interrogeons-nous peut-être pour savoir pourquoi on a encore un ministre de l'Intérieur en fonction qui a été lui-même accusé d'utiliser ses fonctions pour du favoritisme à l'encontre de certaines femmes pour des prestations sexuelles. Donc moi, ça, c'est aussi des questions d'exemplarité qui peuvent se poser.
D'accord.
Aussi. Il y a peut-être la question de ce taxi qui utilisait sa fonction. Il y a aussi des ministres qui peuvent utiliser leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Et dans ce cas-là, un président de la Commission des Finances.
Éventuellement, oui, absolument. Et le président de la Commission des Finances, c'est pareil.
Bon,
il faut qu'il y ait une analyse claire
au moins,
de la situation.
Je suis d'accord.
Absolument, on ne peut plus supporter ça.
C'est très bien, vous êtes cohérente. Alors, Alors moi, j'ai une question à vous poser, puisque vous parlez de violence faite aux femmes. Il n'y a pas que ces situations. Souvenez-vous de cet attentat à Marseille, la gare de Marseille, avec ces deux jeunes femmes tuées, des jeunes filles qui rayonnaient de vie. Celui qui les a tués avait fait l'objet plusieurs fois d'une obligation de quitter le territoire. Il était dans notre pays sans titre légal de séjour. Et malgré tout, le système judiciaire faisait qu'il était encore là. Qu'est-ce que vous prévoyez pour lui? Il fallait le maintenir sur le territoire? Il fallait faire quoi?
S'il y a une OQTF, il est effectivement... L'obligation de quitter le territoire, on doit la faire appliquer.
Vous voyez donc bien que quand on parle de sécurité, et dans notre pays, il y a des sujets aujourd'hui qu'il faut mettre sur la table et il ne faut pas se voiler la face.
Le taux respecté des OQTF aussi.
On est à 23% en France, pour 87% en Allemagne en Grande-Bretagne.
Allez, il est 18h58. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vois qu'on en a pour des heures, mais ça tombe bien, vous reviendrez. Merci à vous, Céline Hervieux. Merci à vous, Patrick Karam. Le journal de 19h arrive à grands pas juste après Panorama. Viens chez moi, j'ai le plus beau littoral. Compète entre l'Office du tourisme du Touquet, du Pays Basque, de Bretagne, Côte de Granit Rose et le directeur de la communication de Hero Tourisme. Voilà, ça sera un peu une compétition. On verra aussi, ça sera une bonne occasion pendant vos vacances. Et puis bien sûr, 19h40 tout à l'heure, le Club Tour. A tout de suite sur Europe 1.